France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes, Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et à la tête de la nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et aujourd'hui, week-end électoral oblige, trois sujets puisés dans la très riche actualité internationale. Et puis pour le débat, nous recevrons deux auteurs qui signent un livre incroyablement éclairant. Son titre, Lumière et anti-lumière en Iran, un siècle de lutte politique aux presses universitaires de France. Loin des simplifications qui feraient de l'Iran un pays obscurantiste ou à l'inverse, un pays qui n'attendrait que de s'ouvrir aux idées progressistes, ce livre nous raconte les tensions qui n'ont cessé de traverser ce grand pays, des tensions qui nous permettent de mesurer les défis qui l'attendent et le risque peut-être d'une guerre civile. Stéphanie Rosa, chargée des recherches en philosophie politique, spécialiste des Lumières, de la Révolution française et de leur héritage dans le monde contemporain, et Amir Pacha Tavakoli, docteur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po Reims, seront avec nous tout à l'heure, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Bonjour Thomas.
Pas un mot de politique, hein ?
Eh non.
De fait, même pas un mot pour dire qu'on ne fait pas. Parfait. Allez, on va commencer avec l'annonce hier matin, et c'est bien plus tragique bien sûr, de la mort d'un soldat français, Arnaud Frion, tombé en Irak, victime d'une frappe de drone revendiquée par un groupe armé pro-iranien. 6 autres soldats ont été blessés. Hier après-midi, Emmanuel Macron a pris la parole.
Pour ce qui s'est passé ces dernières heures en Irak, je serai très prudent et j'attends d'avoir tous les éléments qui me seront fournis par l'état-major des armées et nos services. Et j'attends de pouvoir parler avec le Premier ministre irakien. Je n'élaborerai aucune forme de scénario, ni n'entrerai dans quelque politique fiction sur ce sujet.
S'il parle, Gilles, de scénario, de politique fiction, c'est parce que la petite musique depuis l'annonce de ce drame, c'est la réponse, la riposte française et le doigt dans un engrenage qui serait un engrenage militaire. Je rappelle que la France a déjà un porte-avions sur place, de nombreux soldats déployés, des bases, des alliés. Et maintenant ce drame, est-ce que l'engagement français va changer de nature ?
Bon, d'abord je crois qu'on a tous une pensée à la fois pour les soldats qui ont été blessés et puis pour la famille de l'adjudant-chef Arnaud Frion qui a trouvé la mort là-bas. C'est une base qui est près de l'aéroport d'Erbil,
oui.
Donc à 200 km de la frontière de l'Iran, en Irak et plus précisément dans le Kurdistan irakien. Dans laquelle les militaires les plus aguerris, français et pas seulement français, puisqu'il y a à côté un camp américain, participent au soutien à la lutte antiterroriste contre Daesh. Donc chacun voit bien l'importance et ce qui se joue là-bas. La question est de savoir pourquoi la France a-t-elle été attaquée et pourquoi la France a-t-elle été attaquée en Irak. Mmh. Et j'entends la prudence, et je crois qu'il faut la partager, d'Emmanuel Macron. Si on essaye malgré tout d'échafauder des hypothèses, je crois que c'est la conjonction de deux éléments. Il y a un élément conjoncturel, c'est celui que vous avez évoqué Thomas, et qui apporte une réponse à pourquoi la France, c'est le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle. La France est dans une position, on y reviendra, d'équilibre. C'est un déploiement, on l'a dit, défensif. Il peut être lu par des Iraniens ou par certains Iraniens comme une situation dans laquelle, en aidant nos alliés à intercepter des missiles iraniens, que nous contribuons à réduire l'efficacité de la contre-offensive iranienne. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a un deuxième élément qui est de savoir pourquoi en Irak, et ça, c'est un élément qui est un élément plus structurel. Que fait la France là-bas ? Elle soutient, c'est très important de le dire, l'ensemble des forces et des mouvements irakiens, pas seulement kurdes, contre Daesh et seulement contre Daesh. Or, pour des Iraniens, pour certains Iraniens, ils soupçonnent la France de ne travailler qu'avec les Kurdes et aussi contre l'Iran. Or, la crainte, on en parlera peut-être tout à l'heure avec nos invités, la grande crainte des Iraniens est le démantèlement oui. de leur régime. Et comme ils pensent que la France travaille avec les Kurdes irakiens, que les Kurdes irakiens, ou en tout cas certains d'entre eux, notamment le clan Talamani, qui est une des deux grandes parties, aident les Kurdes iraniens, l'Iran et ses proxys, puisqu'en l'occurrence c'est un groupe, veulent, et depuis des années, que la France parte d'Irak. Et donc, c'est la conjonction de cette double dimension qui, peut-être, peut expliquer, mais encore une fois, c'est une hypothèse et il faudra en savoir davantage.
Natacha, c'est vrai que sur l'histoire du Kurdistan iranien, il y a une histoire longue qu'on évoquera peut-être avec nos invités tout à l'heure, mais du démantèlement de l'espace même iranien après la Seconde Guerre mondiale, et l'action du Kurdistan, c'est vrai qu'elle est fondamentale dans l'identité même iranienne d'aujourd'hui. Natacha.
Bien sûr, et ce qu'évoquait Gilles est en effet extrêmement important, et c'est d'ailleurs pour ça que pour le public français, il faut bien le rappeler, en effet, l'opération Chamal, c'est une opération, donc c'est le nom de l'opération française, c'est une opération qui implique 600 militaires, 600 soldats français, un peu partout, pas seulement en Irak, pas seulement dans le Kurdistan irakien, et au départ, c'est à la demande du gouvernement irakien, à la demande des différents gouvernements du Golfe. Donc, ça n'a rien à voir, au départ, avec l'intervention illégale des États-Unis et d'Israël. Ça mérite d'être dit. Pourquoi ? Parce que, justement, toute la question est de savoir si, premier point, cette opération change de sens à partir du moment où a lieu l'intervention américaine, un petit peu comme par exemple notre présence en Afghanistan à la suite du 11 septembre aux côtés des Américains changeait de sens à partir du moment où les Américains intervenaient en Irak. La question méritait d'être posée là aussi à l'époque. Donc ce genre de questions, nous risquons d'être forcés de nous les poser bien malgré nous. Deuxième point, derrière, il y a la question de savoir quelles sont les limites précises de l'intervention française, de l'implication qui est la nôtre, qui est parfaitement légitime là aussi dans la mesure où nous avons des obligations vis-à-vis de nos alliés, des pays avec lesquels nous avons des accords défensifs, et je pense tout particulièrement au Liban, qui, une fois de plus, est victime de crimes de guerre, est pris en otage. Et donc, c'est, je pense, pour ma part, l'honneur de la France que d'aller aider le Liban. Il y a un point qu'il faut souligner aussi derrière cela et derrière l'intervention de la France. C'est le fait que ça permet de poser un élément. C'est que la France est la seule puissance européenne à vocation mondiale. Parce qu'elle est une puissance dotée de l'arme nucléaire, parce qu'elle a des outre-mer, parce qu'elle a une histoire qui la lie avec certains pays, notamment le Liban.
Et qu'elle a un porte-avions, ce qui n'est pas si fréquent en Europe.
Voilà, un porte-avions ensemble. Et tout cela ne doit surtout pas être banalisé. C'est-à-dire que, par exemple, noyer ça dans une espèce de politique étrangère européenne qui oublierait cette spécificité serait problématique parce que ça ferait perdre un élément important de protection et de défense de valeurs et de principes pour d'autres pays que nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut insister, mais il faut y insister d'autant plus que cette intervention actuelle doit être clarifiée dans un moment où on voit qu'Israël peut avoir la tentation d'annexer une part du territoire libanais et de pousser certaines positions.
Un complément, Gilles ?
Oui, un mot. Je trouve que la France, dans cette situation, a une position qui est à la fois singulière et qui est équilibrée. À la fois, elle défend ses valeurs, le droit international, en n'apportant pas son soutien à l'opération israélienne et américaine, les droits humains en étant intransigeante avec les Mollahs, et elle défend ses intérêts, ceux de ses alliés au Liban et au Moyen-Orient, et ceux de ses soldats. Pour dire autrement, elle veut être présente aujourd'hui par sa diplomatie et par aussi son armée avec le porte-avions que vous avez évoqué, en réfléchissant à préparer demain, et notamment ce qui commence à être engagé pour la circulation dans le détroit d'Ormuz.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Last night about that. Ce que le président a dit la nuit dernière, c'est que si l'Iran devait arrêter les flux de pétrole du détroit d'Ormuz, il serait attaqué encore 20 fois plus fort. Donc la condition de ce détroit d'Ormuz, elle est prise très très au sérieux par le président, et nous avons des partenaires dans l'administration qui sont d'accord avec cela. Ça fait partie de ce ciblage que nous avons effectué. Nous savons exactement ce que nous essayons d'arriver à faire.
Dan Kane, chef d'état-major des armées américaines, qui hausse le ton au sujet de la fermeture du détroit d'Ormuz, sujet ô combien sensible et stratégique, Gilles vient d'en parler, des mines marines Maham à quelques milliers d'euros, des stratèges américains qui ne les avaient pas envisagées, ces mines déposées par les Iraniens. Quand on sait l'importance du détroit d'Ormuz pour les flux mondiaux de pétrole, est-ce que, Natacha, l'Iran a trouvé là le moyen non seulement de se protéger, mais d'impliquer le monde entier dans cette guerre ?
Non mais le problème véritable, c'est qu'on le savait tous que ça allait se passer comme ça.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est le principal goulot d'étranglement mondial, le détroit d'Ormuz. Tout le monde le sait, depuis les différents chocs pétroliers, ça fait 50 ans qu'on sait que ce point-là est complexe. Et il y a quelque chose d'assez fascinant à voir que l'armée américaine, visiblement, n'avait pas l'air d'avoir anticipé cela, ou était tellement convaincu que ce conflit serait bref, que finalement, elle se disait que ça pouvait passer.
Peut-être ils pensaient que les Chinois, qui dépendent beaucoup de ce pétrole-là et de ce détroit, feraient tellement pression sur les Iraniens que ça réglerait la situation.
Oui, sans doute qu'il y a une part de ça, d'autant qu'il faut bien souligner que la difficulté, c'est que ce ne sont pas seulement les flux de pétrole.
Oui.
D'abord, ne serait-ce que les flux de pétrole, ce n'est pas par exemple parce que nous n'achetons pas directement notre pétrole aux pays occidentaux que nous n'allons pas être largement frappés, mais derrière, c'est par exemple les engrais, et là, pour le coup, l'agriculture française a un modèle qui nécessite des engrais. Et je pense que ça nous renvoie une fois de plus à cette question centrale de la souveraineté. C'est-à-dire que la France, par exemple, qui a une agriculture dont la part céréalière est encore exportatrice, dépend du Golfe pour les engrais azotés et dépend de la Russie et de la Biélorussie pour les engrais potassés. Donc c'est tout de même quelque chose qui devrait, une fois de plus, nous rappeler au fondement même de ce que c'est que l'indépendance. J'ajoute que, pour ma part, c'est vrai que autant les engrais, je le savais, autant, soulignons-le, le prix de la solution azotée, là, est deux fois plus cher que le prix du blé aujourd'hui, alors que le rapport était de 1,10 en moyenne dans les années 2010. Ça veut dire quoi ? Le prix des engrais, c'est plus 15%, le prix du gaz naturel, du gaz non routier, pardon, c'est plus 100%, vous imaginez ce que ça va faire sur nos agriculteurs. Et si on ajoute que, par exemple, un composé comme le soufre est issu à 90% du raffinage des hydrocarbures, donc est produit au Moyen-Orient. Le soufre, on s'en sert pour traiter le cuivre, pour traiter le nickel, pour traiter le lithium. On s'en sert dans la fabrication donc des microprocesseurs.
Oui.
Donc ce n'est pas seulement le pétrole et le gaz qui sont touchés, c'est l'ensemble des structures critiques de l'économie mondiale. Donc la seule réponse que nous pouvons faire par rapport à cette impréparation et, une fois de plus, cette irresponsabilité des États-Unis dans cette affaire, c'est d'enfin comprendre qu'il y a des éléments sur lesquels nous devons petit à petit forger notre indépendance. Je pense à la décarbonation de notre économie, au soutien à une production locale, au fait, par exemple, d'éviter l'intermittence de l'électricité nucléaire, au fait d'aller là aussi vers des transports décarbonés, bref, voilà, de défendre notre souveraineté.
Peut-être d'ailleurs, c'est, et j'y pensais en vous écoutant, 6 ans après le Covid, une nouvelle alerte qui nous dit, attention, quand le commerce s'arrête, les conséquences sont graves.
Mais souvenez-vous des grands discours
du monde
sur
d'après.
Le monde d'après.
Oui.
On est fasciné quand même.
Alors le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui, Gilles, avec Ormuz fermé. Quel est votre regard à vous sur cet enjeu stratégique ? Est-ce que, je reprends mon hypothèse que j'ai formulée auprès de Natacha sur la stratégie iranienne de mondialiser ce conflit qui est régional, et peut-être que c'est en le mondialisant que l'Iran se protégera davantage.
L'Iran est dans une stratégie de dissuasion du faible au fort.
Oui.
Elle utilise les atouts qu'elle a. On pourrait appeler ça les 3D ou les 4D, la durée, les drones, le détroit, pour créer le maximum de désordre. De désordre partout, en frappant les pays du Golfe et en frappant indirectement les pays occidentaux et notamment les États-Unis. Nous sommes sur le détroit dans une situation malgré tout qui est pour partie inédite. C'est-à-dire que l'Iran a déjà joué de l'arme du détroit d'Ormuz à plusieurs reprises, et notamment pendant la guerre Iran-Irak. Mm-hmm. Elle a menacé à plusieurs reprises de blocus. Elle a posé quelques mines. Elle a attaqué parfois des navires, mais il n'y a jamais eu durablement un blocus. Et donc, on est dans cette situation qui dit l'importance de ce qui se joue. Et ça m'amène deux remarques. D'abord, c'est une interrogation sur le passé, c'est-à-dire sur la conception de l'opération par l'armée américaine ou la décision qu'a prise le président Trump en dépit de ce que lui disait l'armée américaine. Parce que, je disais la semaine dernière, professionnalisme dans l'exécution, amateurisme dans la narration. On peut ajouter un troisième élément qui est une impasse majeure dans la conception de cette opération, parce que nous sommes dans une économie de flux, dans laquelle il ne doit pas y avoir de frottement, et les routes maritimes sont cruciales, elles doivent être ouvertes, doivent être maîtrisées. Et c'est un des rares points sur lequel le président Trump agit depuis le premier jour de manière cohérente. Il l'a fait dès le début sur le canal de Panama pour éloigner la Chine. Il l'a fait très vite sur le canal de Suez pour contrôler la route contre les Houthis. Peut-être est-ce là une des interprétations de la volonté d'annexer le Groenland, d'ouvrir la route arctique. Et là, avec cette importance stratégique du détroit d'Ormuz, les choses n'ont pas été anticipées. Et puis, deuxième remarque, juste d'une phrase, conviction sur le futur, pour prolonger ce que disait Natacha, qui est dépendant du pétrole du Golfe ? C'est l'Asie, de manière massive. Mais qui est victime de l'instabilité de la hausse des prix ? Eh bien, c'est le monde entier, parce que quand l'offre baisse, prix augmentent. Donc on peut essayer ce qu'on a fait en Europe, d'essayer de jouer sur les stocks en libérant des stocks. On peut débattre des taxes ou des marges, mais la question stratégique, ce n'est pas d'être moins dépendant du Golfe ou d'ailleurs, c'est d'être moins dépendant des énergies fossiles. Et donc peut-être qu'il faut aussi se saisir de cette crise pour entamer cette bifurcation, parce que ça dure des décennies avant d'y parvenir.
Il y a une autre dépendance qu'évoquait Natacha, c'est sur les microprocesseurs, les nouvelles matières premières. La Corée du Sud commence à dire « attention, l'IA que vous vénérez est en train d'être impactée aussi par ce qui est en train de se passer là ». Et n'oublions pas que les Iraniens ont tapé des data centers, et c'est sûrement pas par hasard. Tiens, voilà une transition pour le dernier sujet.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
C'est une entreprise mondiale, avec des bureaux à Paris, New York, Montréal et Singapour pour l'instant. Des investisseurs, comme vous l'avez dit, très divers. Un peu plus du tiers des investisseurs sont européens, une grande partie de Français. Un peu moins du tiers viennent d'Asie et du Moyen-Orient, et à peu près un tiers sont américains. Vous savez, quand une entreprise dépasse une valorisation d'un milliard, on appelle ça...
Une licorne.
Voilà, une licorne. Nous, on dépasse les 3 milliards, donc on est un triceratops.
Yann Lequin à la tête d'un triceratops. Tops, l'ancien directeur de la recherche fondamentale en IA de Meta, accélère le développement de sa start-up AMI afin d'accélérer, alors là, je suis pas un spécialiste, mais la recherche de nouveaux modèles d'IA capables de comprendre différemment le monde physique. C'est pas très clair, mais c'est beaucoup d'argent, Gilles.
Alors, partons de l'argent pour arriver au contenu. Franchement, il y a deux chiffres qui m'ont frappé. Le premier, c'est le milliard. C'est-à-dire le montant de cette levée. C'est pas inédit. Il y en a eu quelques autres, mais c'est exceptionnel, a fortiori pour une entreprise qui a été créée il y a moins de trois mois. Et c'est supérieur aux attentes, puisque c'est ce qu'on appelle une sursouscription. Le deuxième chiffre, c'est 10 ans. C'est l'horizon approximatif, la temporalité du projet, c'est-à-dire à partir du moment, non pas où ça va rapporter de l'argent, mais où ça peut déboucher sur des projets concrets. Et c'est intéressant par rapport à un truc qui... Oui. Une économie où on est dans l'instant... Où les marchés sont dans l'instantanéité. Il y a cet horizon qui est un horizon très long.
C'est même rassurant. Est-ce parce qu'on nous promet la fin du monde avec l'IA dans 2-3 ans. Bah, eux, au moins, ils disent au moins 10 ans.
Alors oui ou non, c'est peut-être une bulle spéculative. Ouais. Peut-être que c'est aussi l'attente d'un effet de levier très important. Et puis, deuxième remarque sur le sens, sur l'objet lui-même. À la fois ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Il est une critique profonde de l'IA générative actuelle, c'est-à-dire toutes les IA que nous utilisons et qui sont d'un usage très facile, dont le principe, si on le dit d'une phrase, est de faire des probabilités. Et que Yann LeCun considère à la fois comme peu fiable, trop limité et trop coûteux à la fois en capital et en énergie. Et l'idée, et c'est ça qui est intéressant à réfléchir, c'est de non pas être dans des probabilités, mais d'être dans des causalités. C'est quoi la différence? Si je dis le grand face à, l'IA va dire face à face. Mmh. C'est une probabilité qui était effectivement une probabilité assez forte. La causalité, c'est si je pousse le gobelet qui est au bord de la table, la causalité, c'est qu'il va tomber. Mmh. Et ce que veut anticiper l'IA de Yann LeCun, c'est ça, c'est de passer de la probabilité à de la causalité avec des applications qui sont des applications potentielles dans le monde réel. On parle de la voiture autonome, une des difficultés, c'est précisément d'appréhender le monde réel. C'est tout ce qui est de la robotique hors des usines, c'est-à-dire là où il se passe des choses imprévues. Je termine par un mot sur ce que le projet n'est pas. Il n'est pas un geste de souveraineté français ou européen, et on l'a très bien entendu dans ce que disait Yann LeCun aujourd'hui, c'est de l'idée d'une entreprise globale face à des Chinois et à des Européens. Et il n'est pas non plus...
À des Américains.
Et il n'est pas non plus une prudence éthique. Il y a beaucoup d'interrogations, vous le disiez, sur les dangers de l'IA, est-ce qu'il faut faire une pause? Là, au contraire, il veut aller... plus loin, la question, est-ce que c'est une bonne voie, cette nouvelle voie, ou est-ce qu'il faudrait améliorer celle qui existe? J'ai posé la question à ChatGPT.
L'ennemi de Yann LeCun.
Ben oui, c'est ça qui est intéressant. Il me dit.
Ouais, la machine vous dit.
La machine me dit.
Jamais entreprise.
Yann LeCun a probablement raison sur le diagnostic, mais peut-être pas sur la stratégie.
Ça, c'est de la causalité ou de la probabilité? Natacha.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a derrière... la nature même de ce qu'on peut attendre des IA, et c'est ça qui est passionnant, avec un problème qui se pose, qui est la façon dont une IA qui en effet est régie uniquement par une adjonction de mots, la façon dont elle peut analyser le réel dont elle n'a aucune connaissance, puisque c'est ça le sujet, avec cet exemple assez simple, c'est-à-dire que si vous voulez faire un robot qui fonctionne dans la vraie vie et vous lui demandez de débarrasser la table, eh bien la probabilité qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle qui compose votre robot, qui le commande, se dise « c'est plus simple si je balaye tout d'une main parce que c'est efficace, ça a débarrassé la table » est très forte parce qu'il y a des implicites. Voilà. Et que, dans le langage...
Et si elle s'en va en claquant la porte, c'est notre fille adolescente.
C'est ça. D'accord. Et derrière, il y a un concept qui est très intéressant, qui est le concept de l'alignement des IA. C'est quoi l'alignement des IA? D'ailleurs, on vient de lancer un rapport sénatorial sur cette question qui a été confié à la sénatrice Vanina Paoli-Gagin, oui. Sénatrice de l'Aube. C'est quoi l'alignement? C'est justement de faire en sorte que les IA puissent réagir en fonction des principes et des valeurs qui sont les nôtres. Et cette question-là, elle est vertigineuse. D'abord parce qu'on est dans des grands débats sur la régulation, même des réseaux sociaux, des choses comme ça, mais c'est pareil pour les IA. Comment vous régulez? À quel moment ça devient de la censure pour essayer de contrôler les contenus? Et de l'autre côté, quand les usages sont des usages qu'on appelle des usages... dual, c'est-à-dire en fait à la fois civil et militaire, alors là on voit très bien à quel point l'alignement des IA est un enjeu. Et ça intervient, toutes ces réflexions-là et toute cette actualité, à un moment où il se passe quelque chose d'énorme, à savoir le bras de fer entre Anthropique et l'administration américaine, sur la question de savoir si Anthropique va réussir à résister à l'utilisation de son IA pour des buts militaires et même potentiellement de surveillance, puisque les deux lignes rouges d'Anthropique, c'était pas d'usage militaire sans intervention humaine et pas de surveillance de masse. Alors attention, sur le sol américain.
Oui. C'était d'ailleurs, les morts, c'est des civils et des soldats américains.
Exactement.
Ouais, c'est toujours précisé.
Bref, ces sujets-là, il va falloir les suivre.
L'intelligence artificielle nous permettra-t-elle de comprendre ce qu'il se passe en Iran? La probabilité ou la causalité? Je crois que le mieux, c'est de recevoir deux intellectuels qui ont travaillé des années sur le sujet. Place au débat du Grand Face-à-Face.
Le Grand Face-à-Face. Le débat.
Bonjour Amir Pacha Tavakoli.
Bonjour.
Et bonjour Stéphanie Rosa.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Amir Pacha Tavakoli, vous êtes docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Reims. Et vous, Stéphanie Rosa, qu'on a déjà reçu pour un livre précédent. Vous êtes philosophe, chargée de recherche en philosophie politique au CNRS et à la Sorbonne, spécialiste des Lumières, de la Révolution française et on va le voir, de leur héritage dans le monde contemporain et donc pas seulement occidental, parce que c'est l'Iran qui vous intéresse tous les deux. Vous allez nous expliquer d'où viennent les lumières iraniennes, comment nos lumières ont pu s'accommoder un temps des antilumières iraniennes avec ce livre « Lumières et antilumières en Iran » aux éditions des presses universitaires de France. Merci à tous les deux d'être avec nous. Mais évidemment, pour commencer, l'actualité de l'Iran en guerre contre les États-Unis et Israël et pour la première prise de parole indirecte du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei.
Vous ne le verrez pas, vous n'entendrez pas non plus la voix du nouveau guide suprême. Le premier discours de Mojtaba Khamenei, diffusé cet après-midi par la télévision d'État et lu par une présentatrice, lui promet la vengeance de l'Iran.
Nous ne renoncerons pas à venger le sang de vos martyrs. La vengeance que nous avons en tête ne se limite pas aux martyrs du guide suprême de la révolution.
Amir Pachatavakoli, est-ce que cette voix-là, indirecte, mais la voix du guide suprême, Khamenei, Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali Khamenei, est-ce que pour vous c'est la voix de ce que vous appelez les anti-lumières?
Alors oui. C'est tout à fait une incarnation de ce qu'on peut qualifier comme anti-lumière. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez frappant, parce que quelqu'un qui était assez, qui ne se montrait pas sur la scène politique, mais on savait qu'il jouait un rôle très très important derrière. On savait que, par exemple, il était impliqué dans les répressions qui ont visé les manifestants en Iran à plusieurs reprises. Et c'est quelqu'un, en effet, en cela, son choix est révélateur de quelque chose, en ce qui est la ligne idéologique de la République islamique. Dans le sens que finalement, dans ces prises d'opposition, là, on entend vraiment l'opinion la plus réactionnaire, d'une certaine manière, de ce qu'on peut avoir au sein de la République islamique. En cela, et en effet, il y a une certaine continuité par rapport au plus réactionnaire, j'ai envie de dire.
En revanche, il y a une rupture, Stéphanie Rosa, avec l'histoire de son père, Ali Khamenei, qui est quelqu'un qui jouait de la musique, qui aimait la littérature, qui aimait Victor Hugo, et qui a basculé. C'est intéressant parce que l'histoire d'Ali Khamenei, elle raconte un bout de l'histoire que vous racontez de ces deux Irans incarnés en un homme peut-être.
Oui, parce qu'Ali Khamenei, après avoir aimé la poésie, la littérature et la musique, il est devenu, il a été formé par Najab Safavi, donc le fondateur des Fedayines de l'islam, le premier parti islamiste de l'Iran, qui est fondé juste après la Seconde Guerre mondiale. Et il a été aussi le traducteur de Saïd Qutb, qui est l'intellectuel organique des Frères musulmans égyptiens. Donc c'est Khamenei est un des passeurs de l'idéologie islamiste des Frères musulmans, donc sunnites, dans le monde chiite. Et il médite les leçons de Saïd Qutb, et ça se voit dans les commentaires qu'il fait de ses propres traductions.
J'ai été très surpris dans votre livre de ne pas entendre parler, notamment en vous regardant Stéphanie Rosa, de Montesquieu, des lettres persanes.
Oui, bah parce que...
Pourquoi
Les lettres persanes, c'est plutôt un message...
Sur la France, d'accord.
Oui, et puis c'est un message à destination des Français. Ouais, c'est-à-dire, ouais. Il s'agit de décentrer le regard, ouais. Pour déconstruire les préjugés qu'on a, nous, sur... Enfin, qu'ont les Européens sur leur propre société, les propres travers de leur société. Nous, on a voulu, alors, déconstruire certains préjugés, mais pas les mêmes.
Est-ce que c'est un miroir inversé? Est-ce que vous êtes un peu les... Des caricatures de l'être personne.
Comment peut-on être personne?
Ce qu'on a voulu montrer, en tout cas, le préjugé qu'on a voulu déconstruire, je ne sais pas s'il est oriental ou occidental, mais celui qu'on a voulu déconstruire, c'est l'idée qu'il y aurait une frontière infranchissable entre les logiques politiques de l'Occident et les logiques politiques de l'Orient. Ce qu'on a voulu montrer, au contraire, c'est que les passages sont nombreux, c'est que les influences sont nombreuses, et que fondamentalement, depuis la Révolution française, les grandes forces en présence sont les mêmes. En tout cas, les familles politiques sont les mêmes.
Oui, et c'est ça qui est frappant, et on va donner la parole à Ginette et Natacha, mais la première date sur laquelle s'ouvre quasiment votre livre, c'est 1906, la première révolution au Moyen-Orient, et cette révolution qui tente à mettre un terme à l'absolutisme de la dynastie des Qadjars, raconte déjà ce que vous êtes en train de me dire, l'un ou l'autre qui veut répondre.
Ah oui, tout à fait. Dans le sens que finalement, ce qui est quand même l'arrivée des valeurs progressistes venant de l'Occident, et essentiellement les auteurs français en Iran, ça date de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais c'est un courant qui est un peu élitiste ou minoritaire, c'est-à-dire que déjà, les penseurs, les poètes, les écrivains s'inspirent de cela. Mais ce qui est quand même très très important par rapport à la révolution constitutionnelle, c'est que là, ça prend finalement un visage politique. C'est-à-dire que ça ne sera plus du tout quelque chose dans les débats, dans les salons, dans les lieux des personnes éduquées, des élites du pays, etc. Mais une force politique. Et c'est ça qui est quand même très, très particulier.
Et ce qui est particulier aussi, c'est la permanence, à vous lire, du temps et des acteurs qui jouent, les commerçants, les intellectuels, les classes moyennes. En fait, c'est des gens qu'on va retrouver à d'autres moments de l'histoire du côté des Lumières contre les anti-lumières. C'est ça qui est frappant, je trouve.
Alors, les acteurs, en fait, ils changent. Enfin, ils ne sont pas toujours dans le même camp.
Oui, c'est vrai
bien
aussi.
Bien sûr. Et notamment, une des choses qu'on a montrées dans l'ouvrage, c'est que les intellectuels, qui étaient plutôt favorables aux idéaux de 1789 et libéraux au début du siècle, au moment de la révolution constitutionnaliste, et puis ensuite, petit à petit, vont se détacher... d'abord à cause du caractère autoritaire du pouvoir en place, qui incarne une certaine modernisation, une certaine modernité.
À marche forcée.
Mais à marche forcée, mais de manière autoritaire, sans accorder les droits politiques, etc. Et puis ensuite, après l'échec de Mossadegh, peut-être qu'on reviendra sur 53. Cet épisode, en 1953, un coup d'État monté par la CIA contre un dirigeant nationaliste extrêmement estimé.
Et bien, qui avait nationalisé le pétrole.
Qui avait nationalisé le pétrole, qui voulait mettre l'Iran sur une voie d'une modernité aussi indépendante, souveraine par rapport aux puissances impérialistes, aux Russes, aux Américains, aux Anglais, etc. Après cet échec-là, ces intellectuels, ils vont changer de camp. Et une partie d'entre eux va vraiment se ranger dans le camp des anti-lumières, justement. Et on a voulu montrer aussi ce basculement.
Oui, ce qui est frappant, et je donne la parole à Gilles dans un instant, mais c'est à quel point la modernité n'est pas synonyme forcément de lumière. Notamment dans le cas iranien, quand vous parlez de modernité à marche forcée, beaucoup de gens en ce moment, notamment des monarchistes, diffusent des photos des femmes dévoilées dans les rues en disant « voilà, c'était magnifique ». Sauf qu'on sait aussi par ailleurs la rigueur et l'horreur de ce que a pu être les dernières années du Shah avec la prison d'Evin ou avec l'action de la police politique. Gilles.
C'est peu de dire à quel point votre essai tombe à pic. Oui. En lisant la presse, on en apprend beaucoup sur la situation de l'Iran et de la région actuelle. En lisant votre livre, on en apprend énormément sur l'histoire et sur une histoire qui, pour beaucoup de Français, est une histoire méconnue de l'Iran. C'est accessible et c'est passionnant. J'ajoute que, de manière habituelle et peut-être paradoxale, quand il y a une guerre, les Français n'achètent plus de livres. Eh bien, s'ils veulent comprendre la guerre, qu'ils en achètent un qui est le vôtre. La première question que je voudrais vous poser, puisqu'on a entendu indirectement l'ayatollah Khamenei, est une question sur la religion, à la fois sur l'histoire et puis sur la situation actuelle. Sur l'histoire, 1906, on parlait de cette première date de la révolution de 1906, quel est le point de bascule? Parce qu'on voit que l'Église, enfin comme l'Église en France, il y a eu des hésitations sur l'attitude que devait adopter l'Église. 1979, vous dites, c'est une vraie révolution. On dit souvent la révolution, c'est une vraie révolution. En quoi, dans l'organisation du pouvoir, il y a une spécificité de l'instauration d'un régime théocratique? Et puis aujourd'hui, vous dites quelque chose qui va sans doute surprendre beaucoup d'auditeurs, que l'Iran est un pays extrêmement sécularisé. Alors, jusqu'à quel point ?
Stéphanie Rosa et puis Amir Pacha, d'Alakoli ensuite.
Nous, ce qu'on a constaté à travers ce qu'on sait de l'Iran par les réseaux sociaux, par la presse, par aussi toute l'opposition à l'étranger, c'est que les mollahs ont réussi ce que le Shah avait essayé en vain pendant des décennies, c'est-à-dire à dégoûter tout le monde de la théocratie, de la religion, du carcan que représente l'inégalité homme-femme, le voile obligatoire, la non-mixité, et qu'aujourd'hui, l'Iran est un pays dans lequel 80% de la population aspire à la démocratie, aux droits humains élémentaires, où les mosquées se sont vidées, hein, selon les mollahs eux-mêmes, sur 75 000 mosquées qui existaient au début des années 2000, 50 000 ont fermé faute de combattants. Donc, il faut quand même s'imaginer. Et les 25 000 qui restent sont à moitié vides. C'est-à-dire que les Iraniens ne veulent plus de la théocratie, mais ils veulent aussi l'accès à une modernité qui est démocratique, qui est mixte, qui est égalitaire. Donc, il y a vraiment... Y a un, il y a une sécularisation et une laïcisation de la société iranienne qui est sans équivalent, je dirais, dans la région.
Et par la répression et par le contre-exemple des mollahs. Amir Pacha, t'as
voté. Ah oui, absolument. Bah, je rejoins Stéphanie Rosa là-dessus. Et d'ailleurs, cette contradiction est quand même assez intéressante. Parce que finalement, quand on regarde la modernité à l'époque du Shah d'Iran, cette verticalité, enfin cette modernité un peu par la force, à travers le changement des lois, comme si le changement des lois pouvait éventuellement garantir le changement des mentalités. Alors, une cristallisation à un moment d'une certaine manière de rejet qui fait qu'une certaine opposition religieuse puisse en profiter de tout cela. Ce qui est tout à fait l'inverse finalement vis-à-vis de la République islamique, c'est que on a voulu nous imposer des codes finalement qui des codes légaux et politiques qui reposaient sur des droits les plus réactionnaires. Et ce qui s'est passé, c'est que la société civile a fait une preuve de très grande résistance. Donc les mentalités ont quand même changé. Et ce changement des mentalités, c'est un élément que la République islamique n'a pas pu empêcher. Et c'est là-dessus, finalement, qu'elle a complètement échoué dans son projet politique.
Mais pour rester sur cette révolution islamique de 1979, il y a aussi un malentendu qui consiste à penser que tous les Iraniens se lèvent pour une théocratie. Beaucoup de manifestants dans les rues veulent juste renverser le Shah et n'ont pas d'ambition théocratique. Donc ce n'est pas un pays qui était théocratique en 1979, et qui, par l'expression de la théocratie, s'en est éloigné. Il y a un malentendu dès le départ aussi.
Oui, absolument. Il y a un malentendu, et déjà, peut-être qu'il faut souligner que, finalement, le projet politique de Khomeini n'était pas tout à fait connu pour beaucoup de personnes.
Ouais, bien sûr.
On pouvait éventuellement se renseigner, les écrits étaient déjà là, mais beaucoup de personnes, finalement, ne regardaient pas forcément cela, et finalement, on s'associe au fait que nous avons... Notre ennemi est un ennemi commun. Donc, une sorte d'alliance objective qui était, comme on l'appelait, le suicide de la gauche.
Je pense qu'on peut nuancer ça quand même, parce que on voit quand même dans les images de la révolution de 70-79 une religiosité qui est extrêmement forte, un culte du martyr, des rassemblements dans les cimetières, parce que c'était les seuls lieux autorisés par le Shah pour faire de la politique, où les mollahs prêchent et où les gens se frappent la poitrine, s'enveloppent dans le linceul des morts, etc. Donc il y a vraiment... et quand Khomeini revient, il est en exil en France, quand il atterrit à Téhéran et qu'il est escorté par des foules en délire sur le chemin. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde les gens ne savaient pas ce que c'était qu'une république islamique, mais ce qui est certain, c'est que la religiosité, elle est extrêmement forte. L'aspiration à ce que les intellectuels avaient appelé le retour à soi chiite était forte. Et le problème, c'est qu'à la fois les intellectuels et les groupes de gauche ont accrédité cette solution comme étant la bonne.
Y compris en France.
Ils ont contribué à faire de cette alternative quelque chose de désirable.
Alors justement, Natacha, c'est cette question-là qui est absolument passionnante dans votre livre, c'est le mouvement dialectique permanent entre l'influence des Lumières françaises sur les intellectuels iraniens et l'influence de la réaction française et européenne, et vous montrer quelque chose que je trouve assez vertigineux, qui est le lien entre justement cette nouvelle forme de religiosité qu'incarne la République islamique et qui n'est pas un retour aux anciens temps et au Moyen-Âge, mais qui se rapproche, vous le démontrez formidablement, qui se rapproche en fait de la façon dont les mouvements fascistes et nazis ont été des réactions à la modernité, justement, à la fois dans cette adoption d'une forme de modernité, tout en étant, à travers la philosophie telle qu'elle s'exprime chez Heidegger ou d'autres, de remise en cause des fondements intellectuels des Lumières, à travers la recherche de d'une nouvelle identité. Justement, la question qu'on se pose en vous lisant, c'est quel a été, face à cela, l'échec de l'Occident? Est-ce qu'on a l'impression qu'en gros, l'impérialisme occidental a détruit la potentialité des Lumières et que l'Iran en est un exemple terrible?
Stéphanie Rosa.
Je pense qu'il y a une histoire complexe avec plusieurs acteurs. Alors, je suis tout à fait... effectivement, une des choses qu'on veut vraiment démontrer, c'est que la modernité, c'est à la fois les forces modernes et les forces anti-modernes. Oui. Et elles sont indissociables. C'est-à-dire que dès qu'émerge historiquement le projet politique de la modernité à l'issue du siècle des Lumières et après la Révolution française, donc le projet, on va dire, incarné par la Déclaration des droits de l'homme, eh bien naît son antithèse, qui est un projet de restauration, c'est-à-dire, vous venez de le dire, non pas un projet de simple retour en arrière, mais un projet qui vise à s'appuyer sur les valeurs du passé pour écraser les valeurs progressistes, démocratiques, égalitaires portées par les Lumières et la Révolution. Et donc, l'islamisme, qui naît en Égypte et qui, finalement, trouve sa terre d'élection, finalement, en Iran, quelques décennies ensuite, est une des expressions de cette antimodernité. Ce qui l'a rendu désirable, on va dire, pour les Iraniens, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. C'est bien sûr l'impérialisme, on est tout à fait d'accord. Le fait que l'Occident ne soit pas seulement apparu aux Iraniens sous le visage des Lumières, mais sous celui de l'oppression, de la domination, de la prédation des ressources naturelles, etc. Ben, ça a effectivement poussé un certain nombre d'Iraniens à rejeter, on va dire, à jeter le bébé au lot du bain et à rejeter l'idéologie des Lumières avec l'impérialisme. Mais c'est aussi, on l'a dit il y a un instant, le rôle des intellectuels qui ont abondé dans ce sens. Et puis c'est aussi, évidemment, le pouvoir autoritaire qui a contribué à dégoûter les gens, en fait, de la modernité.
Mais est-ce que cette résistance aux Lumières... On a reçu ici, c'était très intéressant, c'était à Blois, Antoine Lilti qui a fait un grand livre sur le caractère universel ou pas des Lumières, en partant du cas d'un Tahitien qui arrive dans l'Europe des Lumières et qui se rend compte que les philosophes des Lumières se rendent compte que c'est un peu plus compliqué que ça et que cette philosophie n'est pas un prêt-à-penser qui marcherait partout. Est-ce que la résistance aux Lumières en Iran ne dit pas aussi cela ? Est-ce que ça ne dit pas aussi qu'il y a quelque chose de profondément occidental dans nos Lumières et qu'il y a là peut-être quelque chose qu'on ne peut pas appliquer en Iran tel quel?
Alors, je trouve que ce qui est quand même très intéressant vis-à-vis de la réception des Lumières, c'est que c'est une réception controversée, dans le sens que finalement, il y a toute une partie de ce qu'est l'intelligentsia iranienne qui pense qu'il s'agit des valeurs humanistes, universelles, donc occidentales, entre autres, mais premièrement universelles et humanistes, mais il y a quand même toute une partie qui les associe aussi à l'Occident. Et donc, pour revenir à ce qui était l'impérialisme, je trouve que ça c'est un mot qui est très important parce que l'impérialisme, c'est quelque chose que les nationalistes rejettent, les intellectuels de gauche rejettent, le clergé rejette. Oui. Et là-dessus, c'est vrai que ça fait un peu une sorte de camp où ils se rencontrent finalement. C'est une convergence où ils se rencontrent finalement vis-à-vis de cette critique de l'impérialisme. Et étant donné que les Pahlavis arrivent au pouvoir encore une autre fois avec le soutien direct, aussi bien le père que le fils, des puissances impérialistes. Donc c'est un régime politique qui est très très vite associé finalement à ce qui est la mainmise des puissances impérialistes sur l'Iran.
Et si l'Iran n'a jamais été colonisé, l'Iran a été envahi, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est très important dans la mentalité iranienne, notamment des bouts de territoire perdus à ce moment-là.
Absolument.
Ça reste très présent, et vous avez raison de le dire, y compris au sein du clergé, y compris au sein des intellectuels, le nationalisme iranien, c'est quelque chose.
Stéphanie Rosa. Mais cela dit, je pense qu'on ne peut pas, on peut pas sérieusement mettre là encore une barrière en disant les Lumières ne sont pas exportables, etc., parce que les droits de l'homme sont universels, et moi je suis intransigeante là-dessus. Et aujourd'hui, l'aspiration des Iraniens à la démocratie, elle n'est pas orientale, elle n'est pas occidentale, elle est universelle. Et ce que les Iraniens réclament dans la rue au prix de leur vie et avec en le payant par des litres et des litres de sang, c'est quand même leur aspiration à des choses qui sont exactement les mêmes que ce à quoi nous aspirons ici en termes politiques.
Mmh. Gilles.
Il y a un autre sujet sur lequel je pense les lecteurs peuvent être surpris, qui est celui des relations entre les Juifs et l'Iran. Le régime des Mollahs combat l'État d'Israël de manière continue et affichée, milite et agit pour la destruction de l'État d'Israël, et c'est aussi à l'origine de la guerre que l'on connaît aujourd'hui. Mais au-delà de la question de l'État d'Israël, sur les relations des Juifs et de l'Iran et des Juifs en Iran, il y a des choses absolument passionnantes. Je voudrais que vous nous expliquiez la forme qu'a pris pendant des décennies l'intégration des Juifs à la vie politique et sociale en Iran, et quelles sont les caractéristiques de l'antisémitisme actuel du régime des Mollahs.
Amir Pasha Tavakoli, sur cette question des Juifs en Iran.
Alors, en effet, l'histoire des Juifs en Iran est une histoire passionnante. C'est une histoire en même temps qui est millénaire. Ça ne s'arrête pas à ce qui est le rapport conflictuel entre la République islamique et l'Israël. Mais c'est une histoire qui est millénaire, qu'on a dans la Bible et ailleurs. Et que les Juifs, de toute façon, jouent un rôle très important dans l'histoire de l'Iran moderne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, certes, le 19e iranien n'est pas épargné vis-à-vis de ce qui est l'antisémitisme, dont on l'a montré dans le livre qu'il y a des pogroms, etc. D'ailleurs, au motif assez similaire de ce qui se passe finalement à l'est de l'Europe, par exemple en Russie. Mais ce qui est quand même très important, c'est que à partir de ce moment qui est la révolution constitutionnelle au début du XXe siècle, il y a une aspiration à l'égalité, l'égalité de tous finalement devant la loi, où les minorités ethniques et religieuses sont incluses dans cette histoire. Et là-dessus, encore une autre fois, on pourra dire que c'est un exemple assez intéressant. Et ça fait que, en effet, les Juifs ont entré dans l'histoire politique de l'Iran. Alors, ils existent dans l'histoire littéraire du 19e, de l'époque moderne, mais là, ça prend vraiment une dimension politique.
Alors, ouais, à propos de l'antisémitisme, peut-être que c'était Rosa, dans votre question.
D'État, quasiment, ouais. D'État, à partir des années 2000. Oui.
En fait, il y a une espèce de synthèse entre, chez les Mollahs, entre un anti-judaïsme traditionnel, qui est voilà, dans certains versets du Coran, dans certaines pratiques de discrimination, voilà, traiter les Juifs comme une minorité soumise dans les pays dominés par la foi musulmane. Et puis un antisémitisme moderne, qui est spécifique à la modernité, qui est né en Europe. Et c'est là où il y a des allées et venues très importantes. Et la spécificité de cet antisémitisme moderne, c'est de dire le Juif est responsable de tous les maux de la modernité. Le Juif est responsable de l'égalité homme-femme, du communisme et du socialisme, du sécularisme, de la perte des valeurs, etc.
Et ça, c'est vraiment pas nouveau. À lire Johann Chapoutot, dans les années 20 et 30, on avait ça en Allemagne déjà.
En fait, on a ça depuis la Révolution française. Oui. C'est-à-dire que dans les années qui suivent la Révolution, au début du 19e siècle, l'abbé Baruel dit « la Révolution française, c'est le complot judéo-maçonnique ». En fait, ça part de là. Tout au long du 19e siècle en Europe, on accuse les Juifs, et notamment l'extrême droite chrétienne, enfin les chrétiens intégristes, on pourrait dire, accusent les Juifs de ça. Et ensuite, du coup, ça passe dans le monde musulman par le biais des Arabes chrétiens qui traduisent les classiques de l'antisémitisme européen en arabe. Ça se développe dans le giron de l'islamisme égyptien et ça finit en Iran. Chez Khomeini, on a la synthèse de cet anti-judaïsme traditionnel de l'antisémitisme moderne. Et puis la dernière roue du carrosse, si on peut dire, c'est le négationnisme, qui là aussi est un produit importé d'Europe.
Absolument.
À partir de la fin des années 90. Donc là, c'est pas Khomeini. Khomeini, il est mort. Mais par contre, c'est Khamenei et c'est...
Ahmadinejad aussi,
son,
le président.
Voilà, et son entourage, exactement.
Ouais. On sent, à vous écouter, hein, que le mot-clé, c'est quand même la modernité. C'est vraiment le mot-clé qui traverse toute notre conversation. Natacha.
Oui, et vous montrez comment ce sont les frères musulmans égyptiens qui sont une forme de matrice idéologique de la révolution de Khomeini. Et de fait, quand on regarde quels sont les intellectuels qui, en France, ont fait preuve de complaisance vis-à-vis de cela, quelqu'un comme Michel Foucault est en fait un penseur des anti-lumières, d'une certaine façon, d'une remise en cause de la pensée des Lumières. Et il n'y a donc sans doute aucun hasard à ce que tout ça se conjugue. Mais on se pose la question quand on regarde l'attitude de la gauche iranienne à ce moment-là. On voit les manœuvres du parti communiste iranien, on voit les différents positionnements. On hésite en fait entre une part de cynisme, une part d'aveuglement et une part d'incapacité chez eux-mêmes à petit à petit sortir de la culture profonde qu'est l'islam. Quelle est la part de cette dimension-là ? C'est-à-dire, en fait, est-ce que cette gauche-là n'était pas encore assez sécularisée pour réussir à résister à ce rouleau compresseur qu'est cette anti-modernité de la révolution islamique ?
Stéphanie Rosa, et puis sur la question de Foucault et l'anti-modernité, je pense que ça ouvrira des débats sans fin. On va pas s'y arrêter, mais je suis sûr que des gens écoutent en disant « Mais quoi ? Foucault, le penseur de l'homosexualité, du corps, du panoptique, peut pas être considéré comme les anti-lumières ? » Je vais pas ouvrir le débat, mais j'anticipe des réflexions qui peuvent avoir lieu.
C'est un dépassement des lumières,
dans des cuisines,
en tout cas. C'est pas réactionnaire, mais c'est un dépassement des lumières.
Stéphanie Rosa.
Je pense.
Moi, j'ai écrit des choses qui vont dans le sens de considérer Foucault comme un anti-lumière. Donc voilà, on en discutera une prochaine fois. mais ce qui est certain, c'est que quand il arrive en Iran pour une série de reportages en 1978-79, il est enchanté du fanatisme, parce que c'est quand même ça, des foules khoméniste, il décrit ça dans des termes dithyrambiques, il trouve ça formidable, et on voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures entre ce qu'il prône pour sa propre société, c'est-à-dire la défense des minorités sexuelles, la prise en compte de toutes les la prise en compte positive de toutes les marginalités, etc. Et puis le sort qu'il estime désirable pour les Iraniens, qui est finalement le fanatisme. Et donc il y a un relativisme chez Foucault qui va effectivement dans le sens d'une stratégie générale de lutte contre la modernité, de lutte contre l'universalisme en particulier. Voilà. Mais bon, je ne vais pas plus loin là-dessus.
La question était celle de la structure d'une religion et de la façon dont elle imprègne des individus au point qu'ils ne puissent pas forcément eux-mêmes anticiper que ça n'est pas compatible. C'est-à-dire, on voit, vous montrez bien qu'il y en a certains qui se disent qu'après tout, ça peut coller finalement et qui oublient la dimension, enfin l'opium du peuple de Marx. Ça
passe.
Oui, ce que j'ai trouvé dans les textes et dans les travaux de recherche qui ont été menés à ce sujet, c'est qu'effectivement, il y a une imprégnation religieuse qui est la culture d'origine de tous les militants de la gauche iranienne dont ils ne se sont jamais complètement départis. Donc ça allait de il y en a une minorité qui a une position quand même critique qui dit que la religion ne peut pas, et notamment le chiisme, n'est pas progressiste, ne peut pas servir de matrice pour une société émancipée, mais d'une part ils sont minoritaires et d'autre part ils disent en même temps qu'il faut pas heurter les croyants, qu'il ne faut pas les fâcher, etc. Et puis après, il y a tous les gens qui, au contraire, considèrent que l'islam chiite est vraiment une voie vers l'émancipation, qui n'a aucune contradiction, mais au contraire, une synthèse entre les idéaux socialisants qu'ils ont par ailleurs et qu'ils ont lus chez Marx ou chez d'autres, et l'islam chiite, qui est la religion des opprimés, et là-dessus, et qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer après 1979, parce qu'il y a vraiment une part d'imprégnation, mais il y a aussi une part d'aveuglement, hein, c'est clair.
Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer après 2026? Personne n'a de boule de cristal dans ce studio, bien sûr, mais juste, Amir Pasha Tavakoli, on a peut-être dépeint deux Irans, il y en a peut-être trois aujourd'hui, parce que vous avez les républicains, vous avez les islamistes, et vous avez les monarchistes. Comment est-ce que vous arrivez à faire le tri là-dedans? Qui sont les modernes? Qui sont les anti-modernes? Qui sont les lumières? Qui sont les anti-lumières? Et est-ce que, de cette espèce de tripartition, je regarde Gilles, à l'iranienne, on n'est pas en politique française, est-ce qu'on peut aboutir à des déflagrations demain et peut-être même des violences? Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre pays?
Alors, Althusser disait l'avenir dure longtemps. Sur court et incertain, ça dure encore plus longtemps, j'ai l'impression. Mais en effet, là l'opposition, elle est grandement éclectique.
Oui.
Donc, comme vous venez de dire, il existe des fractions extrêmement différentes. Il y a l'extrême gauche. Il y a le Parti communiste commence petit à petit
et
à prendre position.
Du peuple, etc.,
absolument. Oui. Donc, l'opposition est éclectique. Elle a plusieurs têtes, si je puis dire. Et on voit que finalement, sur certaines positions, il y a un désaccord fondamental déjà. Oui. Dans le sens que finalement, au lieu de réfléchir à comment en finir avec la République islamique, finalement, on est en train de se demander quel sera l'avenir de l'Iran une fois que la République islamique ne sera plus là, alors que la République islamique, elle est bien là, qu'on constate qu'elle résiste et que, voilà, comme on entend dans l'information. Mais en tout cas, c'est un panel très large et que ça peut être en effet un avenir violent. Oui, ça, c'est pas du tout quelque chose à exclure, oui.
On dit souvent que la France est malade de son homme providentiel. Mmh. L'histoire de l'Iran est faite d'hommes providentiels. Mmh. Est-ce que l'Iran de demain peut se construire autrement qu'en trouvant une figure charismatique, providentielle?
Alors ça, c'est peut-être une des critiques que la gauche adresse notamment aux monarchistes qui, eux, en revanche, veulent à tout prix mettre au devant de la scène politique quelqu'un qui, le fils du chat. Oui. Alors lui-même, il ne prétend pas à vouloir devenir un nouveau chat. Dans le programme, on lui passe là. Il veut défendre, il veut représenter la transition démocratique. Mais en effet, du côté des monarchistes, on entend cela, et c'est vrai que cette fascination pour une figure providentielle, c'est quelque chose qui existe dans l'histoire iranienne. Ça date pas d'aujourd'hui.
Oui, j'allais parler de Darius ou de pour monter très très loin dans l'Antiquité. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir appris tant de choses sur les lumières et anti-lumières en Iran. C'est le titre de votre livre à tous les deux. paru aux éditions des Presses universitaires de France. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Malte de Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier à sa réalisation. Aujourd'hui, Fabrice Desmaz à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, ça tombe très bien, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour Iran, anatomie d'un pays révolutionnaire avec l'iranologue Yann Richard. Une conversation qui complète parfaitement celle que nous venons d'avoir dans le grand face-à-face et que vous pouvez déjà écouter en podcast sur l'appli Radio France.